Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans votre rendez-vous de chaque jour dans l'émission Sortez. Et bonjour à notre chère Chloé.
Bonjour.
Nous accueillons aujourd'hui Olivier Boyer. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Tu fais partie de la librairie Bédélire et tu vas nous en parler d'ici quelques instants. Avec grand plaisir, avant, nous allons réécouter la chronique de Éponine qui est venue la semaine dernière. Elle nous parlait de livres, ça tombe bien. C'est parti.
Donc je vous propose de parler de trois livres, donc une trilogie, To All the Boys I've Loved Before, ou en français À tous les garçons que j'ai aimés, puisque le deuxième film est sorti sur Netflix hier, donc je voulais un peu faire un résumé, voir les différences qu'il y avait entre le livre et les livres et le film, et un peu vous dire si ça vaut le coup ou pas. Donc pour résumer, on parle de Lara Jean Covey Song, qui en fait écrit des lettres d'amour, donc parfait pour la Saint-Valentin, à chaque garçon qu'elle a aimé, donc 5 en tout, mais dans chacune des lettres, donc elle laisse vraiment aller ses sentiments, elle parle vraiment de ce qu'elle ressent, puisqu'elle se dit « Non mais moi je ne vais pas les envoyer, personne ne va les lire, donc c'est juste pour moi ». Donc voilà, elle a un petit train de vie tranquille, elle lit, elle fait de la pâtisserie, elle est proche de sa famille, voilà, vraiment le petit monde idyllique. Et puis tout ça est bouleversé quand les lettres sont envoyées à son insu. Donc voilà, les garçons à qui elle a écrit des lettres d'amour reçoivent ces lettres. Donc elle est dans la panique, surtout que l'un des garçons dont elle est amoureuse, enfin ou était amoureuse, c'est l'ancien copain de sa sœur. Donc pour éviter que lui commence à se faire un peu des films et pour pas que sa sœur soit au courant, elle décide de commencer une fausse relation avec un autre garçon qui a aussi reçu une lettre qui s'appelle Peter Kavinsky, vraiment le nom à l'américaine, et qui lui en fait veut rendre jalouse sa copine. Donc là vous vous dites, oh, on a le fake dating, vraiment un peu une histoire sympa. Et puis c'est vrai que Lara Jean ne veut pas faire face à ses sentiments, mais elle va se rendre compte qu'elle peut pas faire ça toute sa vie malheureusement. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est parfait pour la Saint-Valentin. Moi j'avais pas lu les livres avant de voir le premier film, donc j'ai vraiment été surprise. J'avais vraiment aimé, c'est très romantique, assez simple, un peu gnangnan, donc moi c'est parfait pour moi, pas très... voilà, faut pas trop réfléchir. Et je me suis dit, mais je vais lire les livres, puisque je peux lire. Donc c'est écrit par Jenny Han, il y en a trois, à peu près 300-400 pages chacun, donc c'est assez rapide à lire, je trouve. Donc là, je vais vous parler un peu des points forts que j'ai beaucoup aimés. C'est l'histoire d'amour. Moi, j'aime beaucoup quand c'est des relations, l'amour, parfait. Il y a une représentation coréenne. Donc c'est intéressant aussi de voir ce point de vue. Moi, je suis très pour la représentation dans les livres. Je trouve ça vraiment bien que des enfants puissent se retrouver dans des personnages. Et le gros plus de ces livres pour moi, c'était un personnage qui s'appelle John Ambrose McLaren, qu'on ne voit que dans le deuxième, mais qui pour moi est un coup de cœur. J'adore tomber amoureuse des personnages inexistants, hein. Et j'ai trouvé que dans les livres et dans le film, on s'attachait assez à la personnage principale, Lara Jean, parce que voilà, elle est timide, elle est plutôt dans son monde à lire des livres, comme on va en parler des livres, bah voilà. Et puis vraiment, elle rêve d'avoir une relation, mais elle a peur de ça. Les petits points faibles, quand j'avais vu le film, je trouvais certains des personnages assez agaçants. Ils étaient intéressants, mais bon, c'est des enfants de 16 ans, enfin ils sont censés avoir 16 ans, donc toutes les 5 minutes il y a des dramas, des embrouilles. Je ne pensais pas que c'était possible que dans le livre ce soit encore plus agaçant. Mais si, c'est possible, les personnages sont vraiment pires que dans le film. Et toutes les 5 minutes il y a un nouveau drama, mais c'est qu'à force sur peut-être 20 pages quand t'as eu 3 dramas, ça devient un petit peu beaucoup. Et puis pareil, ce que j'avais pas aimé, c'était que la fin des livres était un peu ambiguë. Il y avait pas de vraie fin, donc t'étais obligé de lire la suite. Alors que pour les films, ce qui est bien, c'est qu'une fois que t'as regardé le film, tu veux pas le regarder le deuxième, t'es pas obligé. Il y a eu une fin, là fallait vraiment lire les trois pour que t'arrives enfin à quelque chose de satisfaisant. Et c'est vrai que de pas avoir de résolution d'histoire, moi je trouve ça très frustrant. Je sais que c'est un peu le nouveau truc de, enfin c'est ancien, je dis n'importe quoi, mais ce hangover, ce, non pas hangover, cliffhanger de, il y a quelque chose à la fin et on veut savoir la suite. Donc voilà, donc l'histoire, au bout d'un moment ça devient pas très intéressant et le tome 3 pour moi n'était pas nécessaire. C'est, il y avait des nouveaux personnages dans le tome 2, donc on va en parler dans le tome 3 pour finir en fait cette histoire qui honnêtement pouvait être finie dans le tome 2. Et malheureusement les personnages semblent pas vraiment évoluer à mon avis. Ils restent assez pareils du début à la fin et ils restent très clichés, c'est-à-dire que elle est très on va dire Sainte Nitouche, elle le reste du début à la fin. Lui c'est le cliché du footballeur, il reste ça du début à la fin et la méchante ex bah voilà, elle reste méchante et ex tout le long. Donc voilà, donc après, moi j'avais vraiment aimé le 1, donc lire les livres, je me suis dit bon, c'est intéressant, mais je vais continuer à regarder les films puisque c'est assez différent. Et le 2 est sorti hier, et bien sûr je l'ai absolument regardé dans la même journée. C'est vraiment bien pour la représentation, encore une fois, dans le livre. Donc mon personnage préféré, c'est vraiment, il est blanc, il est blond aux yeux bleus, qui contraste avec son autre chéri qui est blanc, mais qui a les cheveux noirs, tout ça. Et là, il est représenté par Jordan Fisher, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui est métissé. Donc, encore une fois, ça développe quelque chose. C'est assez intéressant. Elle, donc, elle est américaine-coréenne. Donc, pareil, c'est, ça permet aussi de voir de la diversité. Les films se finissent vraiment. On n'est pas obligé de regarder le 1, le 2. Enfin, il n'y a pas de souci. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les graphismes. Il y a vraiment un côté qui a été travaillé dans ce qu'on appelle vraiment l'ascétisme, avec les tenues de la personnage principale. Ils ont vraiment fait une chambre d'ado avec des livres partout. Donc, ils ont vraiment travaillé dessus. Je trouve ça intéressant. Et puis, les histoires... Les musiques vont très bien avec l'histoire, ça permet de découvrir de nouvelles musiques, j'ai bien aimé. Mais malheureusement, dans les films, il y a aussi des points faibles. Et bizarrement, j'avais préféré le film au premier tome. Et là, j'ai préféré le deuxième tome au film. Le deuxième film, en fait, c'est normal quand on a des représentations des adaptations de livres en film, qu'on perde beaucoup de contenu. Mais alors là... on comprend pas du tout parce que, comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de drama dans les livres. Et puis là, dans le film, comme c'est résumé très rapidement, on se dit mais ils sont en train de s'embrouiller pour absolument rien puisqu'il n'y a pas de build-up. C'est-à-dire que d'un coup, ils se disent « Ah, je veux plus être avec toi » et tu te dis « Mais pourquoi ? Il n'y a pas de raison. » Donc c'était assez dommage. On avait des romances entre d'autres personnages où on mettait en avant d'autres personnages qui, honnêtement, n'avaient pas besoin d'être mis en avant. Plutôt que de mettre des scènes romantiques ou... qui faisait travailler ou marcher l'histoire. Donc le film est un peu absurde quand on le regarde et surtout quand on est comme moi, on va avoir 23 ans et qu'on regarde des jeunes entre guillemets de 16 ans qui sont en train de se crêper le chignon parce que « Ah mais tu m'as pas regardé, tu m'as pas répondu à mon message ». Voilà, donc j'ai quand même apprécié les livres. Je crois que je leur ai mis un 3 sur 5. C'était pas un gros coup de cœur parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui m'ont dérangée. Et pour les films, j'avais vraiment, vraiment aimé le 1. Et là, le 2, j'ai été un peu déçue. Et bien sûr, ils ont filmé le 3 hein, pour finir la trilogie. Et connaissant Netflix, ils seraient capables d'en faire plus. Mais voilà, j'espère qu'ils vont s'arrêter. Et puis, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire les livres. C'est sympathique, voilà.
Eh bien, merci, Panine. En tout cas, tu m'as beaucoup fait rire. Et puis, on va passer une petite musique avant de nous concentrer sur nos invités et sur le Bibliovore.
Oui, ce sera I Am DDB Trophy. À tout de suite.
I'ma take the trophy home. You gotta go to you, never know you. I'ma take the trophy home. You gotta go to you, never know you. Take me to Paris, I like it. Give me champagne with no glass, yeah, I like it. Drink it all from the bottle, you did. Your man be in my DMs, oh, you did. Whilst I'm sitting with my king, oh, you did. Never snitch, never snitch. We only talk when it's business. Got no time for the hoe, she a queen, yeah. Got no time for the boy, but you're missing. I'ma give you the world, mend all your feelings. Got me love drunk, I'm loose, I am leaning. Got me feeling. But I doubt they would crown you, you feel me. You really feel me. Henny, henny, gang, gang, yeah, I'm with it. I'ma take the trophy home, you. Gotta go to you, never know you. I'ma take the trophy home, you. Gotta go to you, never know, never know you.
De retour dans votre émission Sortez avec Olivier de la librairie Bédélire. Alors, première question, afin de, que nos auditeurs sachent de quoi on parle, Olivier, en quelques mots, qu'est-ce que Bédélire ?
Alors Bédélire, c'est une librairie qui est située à Tours, rue du Commerce, au 81 rue du Commerce, dans le centre-ville historique de Tours, à deux pas de la place Plume, et qui, depuis maintenant 26 ans, qui a été créée en 1993, voilà, offre, propose aux lecteurs et aux lectrices tourangelles et d'ailleurs de se retrouver dans un lieu convivial, une librairie, donc c'est un espace de vente où nous proposons une sélection la plus large possible, en tout cas on essaye, hein, même si on est contraint par un espace qui est parfois un peu réduit, on essaye de proposer le choix le plus large aux gens qui cherchent à découvrir ou à s'intéresser en tout cas au 9e art, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Ah, intéressant.
Voilà.
Alors vous avez parlé de sélection justement, je me demandais est-ce que vous êtes vraiment, à l'intérieur de cette librairie, vous choisissez les bouquins, enfin vous les lisez tous avant pour vraiment avoir une...
Alors là, bon, on est sur un problème, on va dire, qui est aujourd'hui la production de bandes dessinées en France est assez colossale. On est autour de 5000 BD qui sortent par an. Alors bon, sur les 5000, il y en a environ 2000 qui sont de vraies nouveautés. Pour autant, c'est difficile de tout lire, bien sûr, parce que ça, je sais pas, ça fait correspond à 15 ou 20 BD qui sortent par jour. Donc c'est évidemment chronophage et au sein de notre équipe, en tout cas, on essaye de lire le plus possible, dans tous les genres, c'est important. Et puis après on a aussi des spécialités, on a aussi des affinités bien sûr, hein. On va avoir une spécialiste plutôt manga, une collègue qui est plutôt axée sur des genres assez nouveaux d'ailleurs tels que le féminisme, comics américains, on a aussi d'autres genres qui se développent sur l'actualité, sur des thèmes de société, donc voilà, on a en fonction de nos affinités, on essaye de devenir le spécialiste.
Ok, voilà. Très bien. Et vous, votre spécialité, qu'est-ce que vous aimez le plus?
Alors, moi, je suis le petit dernier arrivé. Ça fait seulement un an et demi que j'ai intégré l'équipe. Donc, j'essaye surtout de lire un maximum. Évidemment, on se refuse rien. D'autant que parfois, on peut tomber aussi sur de vraies perles. Hein, donc, il faut enlever les a priori qu'on peut avoir en ouvrant un livre. À commencer, à mon sens, par l'a priori sur du dessin. Pas parce qu'un dessin est beau que l'histoire est bonne, et inversement. Hein. Donc, une fois qu'on a balayé comme ça ces a priori, on s'engage dans la lecture d'un livre en se disant que finalement l'auteur, à travers son histoire, l'histoire qu'il cherche à raconter, a donné le meilleur de lui-même. Donc voilà, il faut toujours partir avec cet a priori positif. Et donc, pour répondre à ta question... J'ai plutôt, moi, une disposition, on va dire, pour tout ce qui touche aux thèmes de société, de l'actualité, de l'histoire. Mais encore une fois, on est toujours surpris à la lecture de certains ouvrages, et donc ils sont nombreux, ça vous l'avez compris. Faut se fermer aucune porte, en fait. Hein, voilà.
Bien sûr. Ta dernière lecture
Coup de cœur.
Coup de cœur.
Ah Dernière lecture coup de cœur, il y en a tellement. Bon, un vrai coup de cœur, moi, qui m'a marqué et qui pourtant maintenant a, on va dire, peut-être 2 mois, c'est dans le genre science-fiction. Et ça s'appelle Soon, c'est édité chez Dargo par deux jeunes auteurs qui s'appellent Thomas Cadden et j'ai oublié le nom de son comparse. C'est vraiment une très très belle BD, je peux en dire 2 mots en fait. Hein, ça nous projette dans un futur qui n'est pas très éloigné de notre monde actuel, on dira à 150 ans. Et en fait, très simplement, hein, nos actes d'aujourd'hui ont des conséquences demain et c'est eux qui en subissent les conséquences. Et donc en fait ça nous projette dans ce que pourrait être notre monde dans 150 ans, un monde qui n'est plus vivable, en tout cas avec notre mode de consommation actuel, et qu'il faut donc opérer des changements radicaux, et c'est à travers ces changements que va pouvoir survivre une partie de l'humanité, une petite partie seulement, 10%, mais voilà, ça nous projette encore une fois dans les conséquences que ont nos actes au quotidien, notre manière de consommer. Donc c'est à la fois un récit d'anticipation, mais aussi écologiste, profondément écologiste, sur voilà, nos manières de consommer, et qui aujourd'hui ne sont plus tenables. Hein. On va clairement droit dans le mur, après on y va plus ou moins rapidement, mais inévitablement on risque d'aller à notre perte.
Oui. Alors c'est assez intéressant, ça me fait penser au fait que maintenant la BD, elle aurait pu être pensée que pour les enfants. Alors là, c'est presque un exemple parfait en fait du fait que la BD est un art, comme tu disais d'ailleurs aussi le 9e, et qu'il est aussi dans une manière aussi de pour les auteurs en fait de, enfin je sais pas comment te dire, mais en fait de quoi le mot.
Mais non, mais c'est vrai que pendant longtemps, les gens ont cru que c'était les petits Mickey. Bande dessinée, ça se résumait à ça, ou c'était l'humour grené, enfin que c'était avant tout destiné à une partie de la population, donc plutôt les enfants, et puis que ça devait rester dans ce cadre-là, le cadre de l'enfance, et puis qu'une fois on devenait adulte, eh bien on passait à des lectures plus sérieuses. Or aujourd'hui, mais c'est vrai déjà depuis pas mal d'années maintenant, on commence à comprendre que à travers ce médium qu'est la bande dessinée, eh bien, il y a toute une pluralité de genres, de styles. Et on peut parler de tout en bande dessinée. C'est la manière dont on va raconter. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que ce médium, en plus d'avoir la force du texte, permet, à travers le dessin, finalement, de capter l'attention, de transmettre des émotions qu'on ne peut pas avoir dans le roman ou dans des essais littéraire. Et ça, c'est assez nouveau. Et les gens commencent petit à petit, mais c'est long, hein, ça, c'est pas venu comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Moi, je me rappelle à titre personnel, à l'époque où, quand j'étais gamin, en 97, je cherchais à faire un stage, et que j'ai fini par faire AB Délire d'ailleurs à cette époque-là. Et en fait, les profs ne comprenaient pas, quoi. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire un stage dans une librairie de bande dessinée? C'était dans le commerce, et ils comprenaient pas qu'il y ait de l'avenir dans ce genre-là, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu une industrie, ça commence à intéresser beaucoup de monde. Les grandes maisons d'édition, je ne citerai pas de nom, mais les grandes maisons d'édition maintenant commencent à s'intéresser et à proposer à travers leur catalogue, de la bande dessinée, parce que c'est aussi un des moteurs aujourd'hui, des moteurs économiques du marché de l'édition. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le roman, ça périclite. Il y a des genres littéraires comme ça qui ne marchent pas. La bande dessinée, elle, fonctionne. Alors, il y a tout un tas de problèmes. Hein. Le problème économique, le problème de la précarisation des auteurs, qui est importante. Pour autant, aujourd'hui, on commence à s'y intéresser. Donc, d'un genre mineur, on commence à considérer un petit peu différemment la bande dessinée. Donc ça, c'est tant mieux. Ça s'est fait, encore une fois, petit à petit, par étapes. Mais y compris dans les bibliothèques, où là aussi il y avait beaucoup à faire, parce que ceux qui animent au quotidien ces espaces que sont les bibliothèques, les médiathèques, avaient eux-mêmes beaucoup d'a priori par rapport au genre BD, et puis maintenant ils s'aperçoivent que les gamins, quand ils rentrent dans ce genre d'endroit, c'est avant tout pour aller dans l'espace BD, dans l'espace manga, voilà. Donc là aussi les a priori commencent à tomber, mais ça se fait lentement.
Non, moi je voulais juste rebondir sur le fait que je trouve que la bande dessinée est le seul style qui est un peu évolutif. Il y a beaucoup de BD qu'on peut considérer comme enfants sur les premiers tomes. Je pense par exemple à Lou, typiquement. Et là, on est au tome, je ne sais plus, 20 ou 30. Et maintenant, c'est devenu une jeune adulte. Et les personnes comme moi qui l'ont lu étant petite, on continue de le lire parce que ça évolue. Et je trouve qu'on ne peut pas retrouver ça dans les autres genres de littérature. C'est compliqué à mettre en place. Et la bande dessinée, c'est quelque chose qui arrive à s'adapter tout le temps. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'est une recrudescence par rapport aux autres types de littérature. C'est parce que ça arrive à s'adapter très vite du fait du petit format.
C'est intéressant aussi ce que tu dis là, ce que tu soulèves, parce que tu es une femme et en plus le public féminin qui était quasiment absent il y a encore 15 ou 20 ans des librairies spécialisées, eh bien c'était un public nouveau et donc à travers là aussi un effort, mais à commencer par les auteurs et les autrices, c'est eux les premiers responsables de ce succès, fait que on voit arriver comme ça des nouveaux publics. Des publics d'ailleurs assez exigeants, les femmes, enfin, pas faire de généralité, bien sûr, mais les lectures ne sont pas les mêmes entre hommes et femmes. Enfin, on peut avoir des... Là aussi, c'est en train d'évoluer assez positivement. Là aussi, il y a encore évidemment beaucoup d'efforts à faire, bien sûr. Mais on voit arriver comme ça des nouveaux publics, et notamment à travers les jeunes filles aussi, qui vont, comme Louis, l'exemple de Lou, on va grandir avec les personnages de notre enfance, et puis on va évoluer comme eux, et puis on s'y attache, tout à fait.
Et en plus, ce côté dessin met en avant des perspectives que juste la lecture ne pourrait pas expliquer aux jeunes filles. Quand je vois surtout la femme dans sa généralité, on se pose beaucoup de questions, à cette période-là, au niveau du collège, peut-être un peu moins que les garçons. On s'en pose plus que les garçons, pardon. Et du coup, je trouve que ça, personnellement, ça aide beaucoup parce qu'elle, dans sa vie, elle pose ses questions à sa mère, mais tout est dessiné, donc on voit les choses. Et ça permet aussi, je trouve, une éducation plus que les autres types de littérature.
Complètement. On le voit, nous, encore une fois, au quotidien, dans la librairie, il y a toute une littérature maintenant qui fleurit à travers des questions de société, des questions de genre, des... questionnement en fait, qu'on peut être amené à se poser au quotidien, et qui, parce que à un moment donné, on a des jeunes auteurs, des autrices se sont appropriés ces questions sociétales et en ont fait un bouquin, et puis ça marche. Il y a le blog aussi, évidemment, qui a beaucoup contribué à créer un lien entre les auteurs et leur public. Et puis de blog, ensuite il y a une bande dessinée qui va sortir. Enfin, il y a des exemples comme ça, effectivement, assez nombreux d'évolution, et aussi à travers notamment les nouveaux médias. Je pense notamment au blog, bien sûr, ça c'est complètement nouveau.
Les réseaux sociaux en général, quand je vois sur Instagram, tous les dessinateurs que je suis finissent par sortir une bande dessinée.
Tout à fait. Ouais. Non, ça c'est vraiment très très positif comme évolution.
Et est-ce qu'il y a aussi plus de femmes maintenant qui en écrivent, peut-être qu'avant ?
Oui, là aussi, il y a encore beaucoup à faire, mais heureusement, oui, on voit arriver maintenant de jeunes autrices très talentueuses, pour certaines qui sont passées par le blog, et d'autres pas. Il y a aussi, on a la chance en France d'avoir un réseau très structuré d'écoles de dessin, c'est-à-dire des écoles qui vont chercher à professionnaliser tous ces jeunes arrivants sur le marché de l'édition, en fait. Et puis, en fait, nous, voilà, et après, on peut partir sur plein de choses, mais il y a des écoles, il y a évidemment l'école Brassard à Tours qui est de renommée, qui est vraiment assez exigeante en termes de qualité, et qui permet comme ça à des jeunes de toucher à différents outils, et de choisir ensuite leur voie. Est-ce qu'ils vont continuer sur le dessin traditionnel ? Est-ce que ce sera plutôt sur le cinéma, l'animation, etc.
Alors, justement, très intéressant, est-ce que tu pourrais un peu nous parler des techniques, comment elles ont évolué, ces techniques ? Parce qu'avant, c'était à la main, maintenant c'est sur l'ordi, comment ?
De plus en plus, évidemment. Là aussi, en fait, chacun est libre d'utiliser les outils qu'il peut trouver à sa disposition. Le plus facile, ça reste encore la feuille blanche, le crayon de papier, évidemment l'encre de Chine. Mais aujourd'hui, beaucoup travaillent maintenant directement sur ordinateur sans avoir à passer par tout ce travail de préparation. Et donc, on a aujourd'hui tout un tas d'outils qui permettent peut-être d'améliorer l'efficacité, peut-être de produire parfois plus rapidement un album. Savoir qu'en moyenne, un album... c'est entre 8 mois et 1 an et demi, 2 ans parfois. Donc la genèse d'un livre peut être assez longue. Et, Et par contre, il y a aussi après, évidemment, le besoin pour l'auteur de faire suffisamment de livres ou de ventes pour pouvoir vivre. Parce que ça c'est une difficulté économique qui est inhérente. Hein.
Alors, justement, tu parlais de la précarité. Comment t'avais dit ?
Précarité des auteurs.
Précarité des auteurs, exactement. Un petit mot là-dessus, ça peut être intéressant.
Oui, enfin, il y a aujourd'hui un auteur sur deux qui gagne moins que le SMIC, il y en a un sur trois qui vit au niveau du seuil, enfin, sous le seuil de pauvreté. Donc, et encore plus encore chez les femmes. Donc, voilà, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. On a entendu pas mal à la suite, notamment du festival d'Angoulême, donc qui a eu lieu à la fin du mois de janvier dernier. Il y a eu évidemment un mouvement solidaire de la profession par rapport à un rapport qui est sorti, qui a été fait par un énarque en fait, hein, du ministère, qui s'appelle le rapport Racine, qui faisait un petit peu un état des lieux en fait sur la précarisation des auteurs et des autrices, et en proposant comme ça des pistes d'évolution, d'amélioration de leurs revenus. Donc voilà, il y a eu pas mal de mouvements sociaux, on va dire, et de manifestations qui ont lieu dans le cadre de ce festival d'Angoulême. Par ailleurs, il y a aussi cette année 2020 est consacrée année de la bande dessinée, donc ça c'est au niveau national. Ce sera peut-être l'occasion justement d'en reparler comme ça tout au long de cette année 2020, mais... Bah oui, la précarisation des auteurs, c'est une réalité, c'est difficile. Il y a beaucoup de livres, on l'a vu tout à l'heure. Hein, c'est donc du coup difficile aussi pour nous de parler d'un livre qu'on n'aurait pas lu, en tout cas d'arriver à le vendre. Ouais, c'est un milieu où il faut être bon, et c'est pas parce qu'on est bon qu'on fera forcément beaucoup de ventes. Donc c'est aussi injuste. Ouais, je sais pas après comment ça se passe ailleurs dans d'autres professions, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à revoir en profondeur et sur toute la chaîne du livre, en fait. Hein. C'est pas simplement l'auteur, c'est l'éditeur, c'est tout le maillon en fait de la distribution, de la diffusion d'un livre. Et là, oui, il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce cas-là.
Et qu'est-ce qui se vend le plus en ce moment ?
Qu'est-ce qui se vend le plus ? En une bande dessinée ?
Oui, en style, ouais. Les comics, les mangas.
Alors, le manga, évidemment, continue à être un des moteurs, un moteur de la BD, mais ça concerne essentiellement quand même un public plus jeune, plus masculin que féminin. Il y a quand même quelques beaux exemples. En fin d'année dernière, il y a eu un livre qui a fait une relative unanimité, qui s'est très bien vendu, qui s'appelle Les Indes Fourbes, avec un duo d'auteurs très reconnus, Erol et Guarnido, au dessin, et qui a permis peut-être de faire découvrir ce genre de lecture à des publics qu'on n'aurait pas vu habituellement en librairie. Qu'est-ce qui a bien marché ? Il y a beaucoup de livres qui se vendent très bien. Hein. Évidemment, je ne vais pas parler du Astérix, mais parce que là, c'est vraiment c'est 3 millions d'exemplaires, je sais pas, ou 2 millions. Enfin, c'est colossal. Mais il y a aussi des titres qui se vendent très bien. Il y a des auteurs qui fonctionnent bien. En fait, nous, on propose aussi, on aime faire découvrir à la librairie à travers, je pense notamment à une table de sélection où on va présenter nos coups de cœur. C'est pas forcément les albums qui se vendent le mieux, c'est simplement nos coups de cœur, nos choix de professionnels et de libraires qu'on a envie de faire partager à des publics. Donc parfois c'est des lectures assez exigeantes, hein. Faut reconnaître que il y a des lectures qui demandent, voilà, un petit peu de concentration, d'assiduité, de réflexion, et pour ça faut aussi connaître le goût des lecteurs. Voilà, on va pas proposer n'importe quoi à n'importe qui, mais ça c'est aussi l'expérience, hein, qui fait que après, quand on connaît les gens, quand on connaît leur lecture, on peut parfois les emmener vers des choses qu'ils n'iraient pas choisir d'eux-mêmes naturellement.
On en avait parlé un petit peu en off et avec grand plaisir, on pourrait revenir un petit peu sur la loi Langue.
Ouais, ah bah oui. Bah nous, c'est une loi qui nous tient à cœur parce qu'en fait, elle existe depuis assez longtemps maintenant. Elle a été initiée par Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture et ancien maire de Blois, qui a été créée en 1981. Donc c'est une loi qui aura bientôt 40 ans et qui aujourd'hui permet à un acheteur de livres, que ce soit de la bande dessinée ou autre, un livre neuf, hein, de payer le même prix ce livre, quel que soit l'endroit où il va l'acheter. Donc, que ce soit dans une grande surface ou dans une librairie spécialisée ou un petit magasin, il paiera donc le même prix pour ce même livre, avec une remise maximum de 5%. Donc en fait, ça permet surtout une égalité commerciale, et pour des petites structures comme la nôtre, de jouer à armes égales face à des énormes structures comme la Fnac, Amazon, enfin, je ne sais pas si on peut citer.
Oui, complètement.
Et donc ça, c'est une loi qui est importante, et qui permet aujourd'hui aussi à toute cette chaîne du livre de se battre à armes égales face à des mastodontes.
Très bien. Avant de passer à la rencontre dédicace que vous organisez du coup avec la librairie le 28 février, c'est-à-dire demain,
ouais.
Petite dernière question un peu, je me demandais que mettez-vous en place afin de faire vivre le monde de la BD en dehors des murs de la librairie ?
Ah ouais, c'est une bonne question. On essaye, on tend en tout cas le plus possible à proposer des animations, à aller voir... aujourd'hui, il y a tout un tas d'acteurs culturels, que ce soit des médiathèques, des bibliothèques, des espaces culturels. Et donc, ces gens-là cherchent à offrir au sein de leur lieu respectif des possibilités d'animation, de rencontres. Et donc, nous, on répond toujours présent quand on nous en fait la demande, parce que c'est aussi pour nous l'occasion de rencontrer des publics nouveaux, sensibiliser des jeunes, des enfants, hein, et puis des personnes plus âgées. Donc, dès qu'on peut sortir des murs et aller proposer comme ça des animations, des rencontres avec les auteurs, nous, on ouvre grand notre carnet d'adresses à leur rencontre, parce que ouais, tout ce qui peut amener à faire découvrir la bande dessinée, c'est une bonne chose. Alors c'est vrai que ça prend du temps. En Touraine, il y a tout un tas de festivals qui existent. Hein, je peux peut-être en citer quelques-uns.
Oui, avec plaisir.
Ouais, donc alors prochainement, il y aura, si on se projette là dans quelques jours, quelques semaines, à Langers, il y aura une journée BD samedi 7 mars prochain. Il y aura quelques auteurs locaux qui sont invités. Il y a Loïc Chevalier, il y aura Olivier Supio, Richard Petitsigne, Sandrine Lemoux et Thierry Jollet. Donc eux, ils vont faire des dédicaces. Et puis le soir, il y aura un spectacle autour d'une BD qui a très bien marché, qui s'appelle Les Carnets de Cerises. Et donc ça, on vous conseille fortement de peut-être même de réserver à l'avance. Le mieux, c'est de prendre contact auprès des services culturels de la mairie de Langers. Donc ça, c'est le samedi 7 mars. Et puis 14 et 15 mars prochain également, ce sera à Chinon. Et là, il y a un festival un petit peu plus important, avec une quinzaine d'auteurs, des rencontres, des animations, expositions, et puis également un spectacle sur une autre BD qui s'appelle Les Souvenirs de Mamette. Et c'est proposé par le Barocco Théâtre. Voilà, tout ça, c'est des animations gratuites. Sauf peut-être pour le spectacle. Mais voilà, et puis il y a quoi d'autre? Il y a Saint-Ouen au mois de juillet, Saint-Ouen-les-Vignes, à côté d'Amboise. Il y a évidemment le gros festival, ça c'est vraiment l'événement local, régional même on peut dire, qui se passe à Blois, c'est tous les ans. BD Boom. Alors BD Boom, c'est pareil. Hein, BD Boom, c'est le 36e ou 37e festival. Chinon, ce sera le 27e festival. À Tour de Bulle, qui est un festival local, hein, vraiment sur Tours, donc qui se passe au mois de septembre, c'est la 15e édition. Donc c'est encore une fois des événements qui s'inscrivent dans la durée et avec, grâce aussi à des équipes de bénévoles, ça assure une pérennité, quoi. Donc ça c'est vraiment important. Voilà, donc Chinon, Blois, Langers, Saint-Ouen, il se passe des choses, Tours.
Oui, il y a vraiment de quoi faire du coup, enfin, le monde de la BD est quand même assez vivant.
En Touraine c'est aussi une terre, on va dire, propice à accueillir des auteurs. Il y a des ateliers, hein, il y a l'atelier Pop qui existe là aussi depuis une vingtaine d'années, et donc qui fédère comme ça des auteurs, scénaristes, coloristes de bandes dessinées au sein d'un atelier, en fait, hein, ils peuvent comme ça échanger et travailler en commun. Donc oui, il se passe des choses en Touraine, bien sûr.
Très bien. Merci Olivier, on se retrouve juste après.
Une pause musicale,
après. Une courte pause musicale.
Et on va pour rester dans le domaine justement de la littérature, on va écouter Bon Entendeur avec Frédéric Becbédé et Entrevue Expérience.
Thank you. Bonjour, c'est Frédéric Becbédé. Vous entendez Bon Entendeur. Que le changement a eu lieu en une nuit. Soudain, tous mes potes destroy des années 80 ne jurent plus que par la nourriture bio, le véganisme et les randonnées à vélo. Nous évitons les oxydations de toutes sortes. Nous sommes flippés en permanence. Nous arrêtons de fumer et de boire. Nous nous mettons à l'abri du soleil. Protégeons nos derniers instants. Ma génération est passée en un clin d'œil de l'inconséquence à la paranoïa. Je mets 3 jours à récupérer après une soirée tequila. J'ai atteint l'âge où l'on a peur de se droguer. On sniffe des pointes à la place des poutres d'antan. On boit des verres de jus de pomme avec des glaçons pour faire croire que c'est du whisky. Dès qu'on veut surfer sur la mer, on chope une double otite. Si on m'avait dit qu'un jour j'attacherais ma ceinture de sécurité à l'arrière des taxis. C'est aussi cela, les joies de la cinquantaine. Bonjour, c'est Frédéric Becbédé. Vous entendez Bon Entendeur.
Et nous revoilà en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Alors tout à l'heure, je voulais revenir sur un truc parce que vous parliez d'Angoulême. Et moi, ma question, c'est pourquoi Angoulême comme capitale de la BD? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?
En fait, c'est... Oui, bah, on peut remonter un peu à l'histoire. Ce que je disais, en fait, c'est plutôt, à mon avis, je n'ai pas très bien étudié la question, mais c'est politique. Hein. Au départ, je crois, dans la petite équipe qui s'est organisée pour proposer un événement autour de la bande dessinée, chose qui n'arrivait pas avant. Hein. Ça ne se faisait pas, ce genre d'événement culturel. À l'origine, il y a eu, je crois, dans l'équipe, il y avait une ou deux personnes qui faisaient partie du conseil municipal d'Angers. Donc, en fait, ils ont monté un dossier et puis ils ont eu des financements. Enfin, c'est toujours un peu la même chose, je pense, pour des événements culturels, quels qu'ils soient. C'est arriver à avoir des subventions et puis une fois qu'on a un petit peu de sous, on peut commencer à envisager les choses différemment. Donc, à mon avis, c'est venu de là. Et puis, de fil en aiguille, l'équipe a grossi. Ils ont su proposer des expositions. Enfin voilà, des choses de qualité, et c'est comme ça qu'est né, à mon avis, ce qui est aujourd'hui un des plus gros événements bande dessinée en Europe.
D'accord, merci.
La BD évolue et voici venu le temps peut-être un peu plus du roman graphique.
Ouais.
Quelle est la différence? C'est quoi un roman graphique, tout ça?
C'est un peu glissant comme question, parce qu'en fait c'est un peu fourre-tout, roman graphique. C'est pas, peut-être par opposition au format traditionnel qu'on pourrait qualifier de franco-belge, format traditionnel 48 pages, couleur cartonnée. Les romans graphiques, en fait, c'est un format qui d'ailleurs n'est pas figé, hein. C'est souvent une densité de pagination un peu plus importante, dans des formats un peu différents que ce format franco-belge auquel on est habitué maintenant depuis longtemps. En fait, c'est surtout la possibilité pour des auteurs et des autrices de développer une histoire sans être cantonné dans un format qui serait contraint.
Ok.
Tu vois?
Ok, très bien. Ça marche.
Mais encore une fois, c'est un peu un thème fourre-tout, et aujourd'hui on l'utilise, à mon sens, peut-être un peu trop à tort et à travers. Ça, on peut aborder toutes sortes de thématiques dans les romans graphiques, comme dans les romans franco-belges. Simplement, à mon sens, encore une fois, c'est plutôt l'épaisseur du livre qui va faire qu'on va s'appeler roman graphique ou pas.
Alors justement, BD franco-belge, tout ça, ouais, enfin... On peut maintenant parler du coup de la rencontre dédicace de demain, ce sujet.
Ah oui, bah là c'est totalement franco-belge. D'autant qu'en plus on a un auteur qui s'appelle Georges van Lintout, et donc évidemment on peut supposer.
Je savais pas comment le dire, c'est bien que t'es du métier. Bon.
Alors on va accueillir trois auteurs demain. On va accueillir Thierry Dubois, pardon, et Jean-Luc Delvaux, qui sont connus pour avoir fait une série qui s'appelle Jacques Gipard, en fait. Aventures d'un détective privé dans les années 50, et dont les aventures se passent essentiellement en France. Ce qui permet d'ailleurs de visiter un petit peu cette France des années 50 à travers les petites routes départementales. Alors c'est vraiment à destination des amateurs de la BD, donc franco-belge, hein, dans un style graphique qui est là aussi assez genré, et où voilà, ça nous permet de vivre aux côtés de ce détective Jacques Gipard différentes aventures. On est vraiment sur du polar assez classique, en fait, hein. Mais c'est aussi l'occasion, voilà, de redécouvrir à la fois, il faut vraiment aimer les belles bagnoles, hein, les Arondes, les Simca, les deux chevaux, les vieux camions Berliers, tout ça. Tout est là-dedans, c'est très bien dessiné, très fidèle à l'original. Et puis ça, voilà, ça permet de se balader comme ça sur les petites routes de campagne françaises. Et puis un troisième auteur qu'on va recevoir demain, donc je rappelle que ce sera entre 15h et 18h à peu près, donc à la librairie Bédélire à Tours, 80 rue du Commerce. Et donc le troisième larron qu'on va accueillir s'appelle donc Georges van Lintout, et qui lui fait, alors il a fait pas mal de choses. Il scénarise, coloriste, dessinateur. Il fait une série principale qui s'appelle Loose Mog. Donc il y a eu 8 tomes qui sont parus au Lombard à ce jour. Là aussi, on est dans un polar assez classique des années 50. Plus connu peut-être pour le public de Radio Campus, c'est Caméra Café, une adaptation de la série télé, là, qui était parue. Il y a eu 6 tomes qui étaient sortis donc aux éditions Jungle. Et puis, donc nous, on va le recevoir pour tout cela, mais aussi pour sa nouveauté, Roadmaster. Donc là, c'est édité chez Paquet. Et c'est les aventures de Brian Jones, un détective privé, enfin qui est surtout expert auprès d'une compagnie d'assurance automobile. Et donc sous ce titre un peu ronflant, en fait, il va là aussi être mêlé, être amené à résoudre des énigmes que ce soit essentiellement aux États-Unis, en fait, hein. Là aussi toujours très daté dans les années 50, ce qui est aussi un prétexte, hein, pour ces auteurs à dessiner de belles bagnoles, hein, en l'occurrence dans ce dernier opus paru qui s'appelle Roadmaster. On va retrouver une belle Buick Roadmaster 52, voilà, je sais pas, ça parle ici. Et donc on est très content, en fait, de recevoir ce trio, parce que c'est toujours l'occasion pour nous d'une rencontre, une rencontre avec des auteurs, de pouvoir échanger, de rencontrer leur public, hein. Ils ont des publics assez passionnés. Et puis voilà, c'est toujours le bienvenu comme ça d'avoir des genres, des styles graphiques différents. Et donc encore une fois, tout ce qui peut amener de la nouveauté, de l'intérêt, tout ce qui peut permettre de faire vivre aussi une librairie en dehors de l'espace commercial, en fait, hein, bah c'est toujours, toujours intéressant.
Oui, complètement. Sur le lien de la description de l'événement, c'est noté les aventures de leurs héros de papier rendent hommage aux séries mythiques de Hergé, Franquin et Tillieux.
Ouais, bah en fait, Tillieux, c'est quelqu'un qui a fortement. Enfin, j'imagine hein, que Maurice Tillieux, c'est quelqu'un qui a fortement influencé là, les trois auteurs qu'on va accueillir demain. En fait, Maurice Tillieux, lui, il est décédé depuis. D'ailleurs, je crois qu'il est mort dans un accident de voiture pas très loin de. Enfin, du Nord-Touraine, en fait. Hein. Okay. Et donc, il y a de ça quelques années. Et Maurice Tillieux, lui, il est connu pour être scénariste et dessinateur. Scénariste, il avait repris notamment Natacha, Tif et Tondu. Quelques albums, et puis c'est le dessinateur de la série Gilles Jourdan, qui là aussi était un héros, un détective, là aussi dans les années 50. Donc on sent que les auteurs qu'on va recevoir demain, ce sont, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, ont été fortement influencés par, j'irais, l'école Maurice Tillieux, qui depuis a fait date.
Et pourquoi, à ton avis, est-ce important de créer du lien entre les auteurs et les lecteurs?
Ah bah c'est une question qu'il faudrait peut-être poser aux auteurs, tout simplement. Hein, ouais, parce que bah, peut-être c'est toujours difficile de répondre à leur place, mais il faut imaginer que le métier de dessinateur ou d'auteur de bande dessinée au sens large, hein, ça peut regrouper des scénaristes, des coloristes, voilà. C'est un métier très solitaire, donc ils sont toute la journée face à leur planche à dessin, chez eux, dans un atelier, mais en fait les moments, les possibilités de confronter leur travail, bah, elles sont en fait finalement assez limitées. Et donc, que ce soit des rencontres dédicaces ou des événements comme des salons, c'est pour eux peut-être la seule et unique possibilité qui leur est offerte de rencontrer le public, quoi.
Et oui, et d'avoir un avis sur leur travail aussi.
D'avoir un avis, d'avoir des remarques. Tout n'est c'est pas toujours des remarques agréables. Bah, ouais, bien sûr. Hein, mais et puis c'est un exercice que certains n'aiment pas. Hein, pas toujours évident comme ça de se retrouver face à son public. Parce qu'il y a aussi des natures qui y a des gens qui, enfin, comme dans tous les métiers, hein, des gens qui parlent bien, d'autres qui sont plus réservés. C'est la nature humaine, quoi. Mais à mon avis, quand même, c'est peut-être la seule et unique occasion qu'ont les auteurs de rencontrer leur public, c'est à travers ce genre d'événements, de manifestations, dédicaces, expositions.
Et donc, on rappelle, c'est bien demain, vendredi 28 février, de 15h à 17h, 80 rue du Commerce.
Ouais, 80 rue du Commerce, plus 15h, 18h, enfin voilà, c'est dans l'après-midi.
En gros.
Quoi. Ouais, en gros, venez dans l'après-midi, quoi. Pas après 19h, ce sera trop tard.
Très bien. Est-ce que tu veux rappeler aussi les prochains événements à Langers, tout ça? Ça peut être intéressant pour nos auditeurs.
Oh bah ouais, bien sûr. Hein. Donc, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, donc la journée Langers BD, c'est la semaine prochaine, c'est samedi 7 mars. Voilà, c'est gratuit. Ça se passe à l'Inox, donc c'est une salle qui se trouve en haut de la ville de Langers, kilomètre du bourg, quoi. Et puis, donc là, il y aura cinq auteurs présents. Il y aura dédicace, rencontre avec les auteurs entre 14h30 et 17h30. Et puis, le soir, il y a un spectacle donc, autour des Carnets de Cerises, une série de BD plutôt jeunesse qui marche très très bien. Et puis enfin, donc, le festival BD en Chinonnet, là, ça nous projette dans 3 semaines, quoi. 14 et 15 mars prochain, ça tombera, je crois, pendant les élections, hein, le dimanche 15 mars. C'est à l'Espace Rabelais, donc c'est juste en face de la jolie ville de Chinon. Vraiment, vous pouvez tout faire à pied. Et dans cet espace, eh bien, il y aura une quinzaine d'auteurs et d'autrices, puisque l'accent a été mis quand même cette année pour essayer d'atteindre une certaine forme de pluralité, enfin, voilà. Et donc on aura des auteurs et des autrices qui viendront dédicacer leurs albums, essentiellement jeunesse mais pas que, il y en a vraiment pour tous les genres, suivi d'un spectacle autour de qui s'appelle Les Souvenirs de Mamette. Voilà, et tout ça c'est gratuit.
Trop bien.
Et voilà.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose auquel on n'aurait pas pensé?
Oui, tu nous demandes. Enfin, on peut peut-être revenir sur le travail. Tu me demandais comment est-ce qu'on fait vivre un lieu, etc.
Oui.
Je pense notamment cette année. Donc, comme tous les ans, il y a le Festival d'Angoulême qui est quand même vraiment le rendez-vous important pour tous les amateurs de bande dessinée. Il y a eu, comme tous les ans, des prix qui sont remis à la fin de ce festival pour le meilleur album, le meilleur album jeunesse, etc. Nous, il y a un livre qu'on a beaucoup défendu dès sa sortie en janvier 2019 et jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Révolution. C'est un triptyque, hein, ce sera en trois parties. Donc là, le premier tome est sorti. Édition Actes Sud l'an 2, c'est dessiné par Goisel et Locard. C'est vraiment un travail à quatre mains, deux jeunes auteurs qui se sont vraiment réappropriés en fait toute cette thématique autour de la révolution 1789 et qui nous offre un regard totalement nouveau sur ces événements-là, de manière chronologique. Au départ, on est vraiment sur une action qui va être parisienne, avant que ça ramifie à travers le royaume de France et que la colère ne gronde. Mais dans ce premier tome, donc on sent poindre comme ça la révolte populaire à travers les ruelles crasseuses de Paris, la famine, enfin voilà, le petit peuple. Essentiellement, c'est pour une fois on s'intéresse, voilà, c'est vraiment l'histoire vue d'en bas, hein, vue à travers ceux qu'on n'entend pas habituellement, quoi, pas la bourgeoisie, quoi, plutôt voilà, le petit peuple, celui qui crève la dalle. Et donc cet album, nous, qui nous a profondément marqué à sa sortie en janvier 2019, a fait son petit bout de chemin, et puis ils ont eu le prix de le Fauve d'Or, donc c'est le prix du meilleur album BD à Angoulême, donc c'est vraiment un succès qui pour nous est mérité, c'est vraiment un beau prix. Ils ont aussi le prix de la BD historique à Blois. Alors on pourra les retrouver aussi au Festival de Blois l'année prochaine. Donc le Blois, c'est BD Boom, donc c'est tous les ans à peu près à la même période, hein, c'est fin novembre, je crois que c'est la troisième semaine de novembre, et il y aura une exposition qui leur sera consacrée, puisqu'en fait ils ont reçu le prix de la bande dessinée historique. Voilà, donc vraiment, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de toute cette heure d'émission qu'on aura passée ensemble, c'est acheter le Révolution, voilà, de Goisel et Locard, Actes Sud l'an 2. C'est un très bon bouquin et qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Voilà, donc ça, c'est voilà, comme quoi on peut défendre tout au long de l'année un livre qui n'était pas forcément facile. Parce que ça parle d'histoire, parce que le dessin est particulier, parce que l'angle qu'ils ont choisi pour raconter justement ces événements-là n'est pas forcément peut-être le plus facile. Ben voilà, malgré tout, un bon bouquin qui a fini par percer, et on est très contents pour eux, parce que voilà, encore une fois, c'est la relation qu'on a pu avoir avec le public, les échanges qu'on a pu faire tout au long de l'année, on se dit, bah voilà, finalement, ça paye, quoi.
Et oui.
Ça, c'est chouette.
Très bien, bah merci beaucoup, Olivier.
Merci.
Et puis moi, j'en profite, comme ça, après, je passe la dernière petite musique et le jingle. C'est le moment de rappeler que cette émission sera en rediffusion demain matin de 6h à 7h. Que le podcast sera disponible ce soir sur toutes les plateformes de la radio, donc le Facebook Radio Campus Tours et le site www.radiocampustours.com. Que là, dans quelques minutes, à 18h, ce sera le Flash RFI, à 18h15, le Ghetto Blaster avec Mathilde. Et nous, on se laisse et on se dit à demain. Bonne soirée, bonne santé, bonne année, tout ça.
Au revoir à tous.
Et on se lève avec Eminem et Criminal.
A lot of people ask me stupid fucking questions. A lot of people think that what I say on record or what I talk about on a record that I actually do in real life or that I believe in it. Or if I say that I want to kill somebody that I'm actually gonna do it or that I believe in it. Well shit, if you believe that, then I'll kill you. You know why? 'Cause I'm a criminal! With a jagged edge, it'll stab you in the head, whether you're a fag or less. At home.
my genitals bulging. That's my motherfucking balls, you better let go of them. They belong in my scrotum, you'll never get hold of them. Hey, it's me, Versace. Whoops, somebody shot me. And I was just checking the mail. Get it? Checking the mail. How many records you expect in a cell after your second LP sends you directly to jail? Come on, relax, guy. I like amen, right, Ken? Give me an amen.
Amen.
Please, Lord, this boy needs Jesus. Heal his child, help us destroy these demons. Oh, please send me a brand new car and a prostitute while my wife's sick in the hospital. Preacher, preacher, fifth grade teacher. You can't reach me, my mom can't either. You can't teach me a goddamn thing, cause I watch TV and Comcast cable. If you ain't able to stop these thoughts, you can't stop me from topping these charts. And you can't stop me from dropping each march with a brand new CD for these fucking retards. And to think, it's just little old me. Mr. Don't give a fuck, still won't please.
I'm a criminal.
Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a
criminal.
I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep moving. I don't take shit from no one. I'm
a criminal.
Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a
criminal.
But I don't gotta say a word, I just flip in the bird and keep going. I don't take shit from no one. Her mother did drugs, hard liquor, cigarettes, and speed. The baby came out, disfigured ligaments indeed. It was a seed who would grow up just as crazy as she. Don't dare make fun of that baby, cause that baby was me. I'm a
criminal,
an animal caged to turn crazed. But how the fuck you supposed to grow up when you weren't raised? So as I got older and I got a lot taller, my dick shrunk smaller, but my balls got larger. I drank more liquor to fuck you up quicker than you'd wanna fuck me up for saying the word. My morals went when the president got oral sex in his Oval Office on top of his desk off of his own employee. Now don't ignore me, you won't avoid me, you can't miss me. I'm white, blonde hair, and my nose is pointy. I'm the bad guy who makes fun of people that die in plane crashes and lasts as long as it ain't happened to him. Slim Shady, I'm as crazy as him and Kim combined.
The maniacs
in place of the doctor, cause Dre couldn't make it today. He's a little under the weather, so I'm taking his place. Oh, that's Dre with an AK to his face. Don't make me kill him too and spray his brains all over the place. I told you, Dre, you should have kept that thing put away. I guess that'll teach you not to let me play with it.
Alright, look, just go up in that motherfucker, get the motherfucking money, and get the fuck up out of here.
Alright.
I'll be right here waiting on you.
Alright.
Yo, M.
What?
Don't kill nobody this time.
Alright.
Hi.
How you doing?
How can I help you?
Yeah, I need to make a withdrawal.
Mm-hmm.
Put the fucking money in the bag, bitch, and I won't kill you.
What? Oh my God, don't kill
me. I'm not gonna kill you, bitch. Just look in the mirror.
Don't kill me. Just
I said
don't
I'm not
kill
gonna
me.
Fucking kill
don't
you.
Don't kill me.
Hurry the fuck up. Thank you. Windows tinted on my ride when I drive in it. So when I rob a bank, run out and just dive in it. So I'll be disguised in it. And if anybody identifies the guy in it, I hide for 5 minutes. Come back, shoot the eyewitness. The fire at the private eye, hide the pride of my business. Bitches, bastards, brats, pets. This puppy's lucky I didn't blast his ass yet. If I ever gave a fuck, I'd shave my nuts. Tuck my dick in between my legs and cluck. You motherfucking chickens ain't brave enough to say the stuff I say, so this tape is shut. Shit after shit I say, I just make it up to make you mad. So kiss my white naked ass. And if it's not a rapper that I make it as, I'ma be a fucking rapist in a Jason mask.
I'm a criminal.
Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a
criminal.
But I don't gotta say a word, I just split in the bird and keep going. I don't take shit from no one. I'm a
criminal.
Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a
criminal.
But I don't gotta say a word, I just split in the bird and keep going. I don't take shit from no one. I'm a
criminal.
Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a
criminal.
But I don't gotta say a word, I just split in the bird and keep going. I don't take shit from no one. I'm a
criminal.
Cause every time I write a rhyme, these people think it's a crime to tell them what's on my mind. I guess I'm a
criminal.
But I don't gotta say a word.
Radio Campus Tours 99.5
et sur internet radiocampustours.com.